Hey, c'est tapé une belle ride avec vous autres la semaine passée dans le cadre du Salon de l'Auto.
Attention, l'International de l'Auto de Québec.
Je sais.
Ça va nous prendre 2-3 éditions avant qu'on s'habille pleinement.
Nous autres, les vieux, là, on appelle encore ça du vent long, hein?
Oui, ça, je sais.
Ouais, on est long, nous autres, à changer, là.
Il y a même encore des commerces qui s'appellent du vallon, ouais. Comme Lavoto du vallon.
Les vieux boqués, là, on est de même. Là. On va apprendre tranquillement. Donnez-nous du temps, OK? C'est l'International...
De l'Auto de Québec.
De l'Auto Québec.
C'est ça.
L'Auto-Québec?
L'Auto de Québec.
C'est juste des gens qui grattent, c'est capoté.
C'est pas de la peinture, tu grattes, malade.
Pas juste des chambres, les gratteux là-dedans. Là.
Non. Oh!
Notre chroniqueur auto, Sam Tremblay-Michaud, qui est avec nous autres, qui a passé la semaine au salon avec Max Larouche.
Il n'a pas de char.
Oui.
Comment t'as trouvé ça?
Max Larouche a conduit un simulateur. Ça m'a fait...
Ça a du bien été.
Ça m'a fait mourir de rire, j'adorais ça. Puis pour vrai, il ne faut pas l'écœurer. Il n'est pas si pire que ça. Je l'ai trouvé pas pire avec un volant. Pour un gars qui haït ça pour mon rire.
Mettons là, par rapport à Audrey Pinchot.
Ben là, je suis pas mal nez à nez selon Martin Richeux. Je m'excuse, Audrey est même pas là pour se défendre.
Je sais pas contre qui c'est le plus chien, ce statement-là. Ça fait mal aux deux.
Ouais, non, mais Stéphane, vraiment super le fun d'être avec Max. On a croisé des auditeurs aussi qui sont venus nous voir. Ouais. C'est pas trippant.
Hey, je veux revenir un peu sur l'International de l'Auto de Québec. C'est bon, hein?
Bravo.
Oui, 66 700 personnes qui sont passées. Oui. Et une statistique qui a retenu notre attention à Véro et à moi, c'est une augmentation de plus de 50 % des essais routiers de véhicules électriques.
Oui.
1526 essais réalisés comparativement à 1010 en 2025. Mm-hmm. Précisément, c'est 51,1% d'augmentation. C'est-tu des gens qui voient le baril de pétrole partir en feu puis qui se disent « OK, c'est l'année où ce qu'on fait à switch? »
100%. Il y a ça. Je vais mettre un petit grain de sel. Je vais dire 80% des gens probablement qui ont décidé d'aller voir l'électrique. C'était dans l'idée de se dire, là, maintenant, je suis peut-être tanné de toujours être pogné à gérer ce qui se passe avec la fluctuation de l'essence. Je pense aussi, par contre, que tout ce qu'on a parlé avec les véhicules chinois au courant de la dernière année...
Ça a créé une curiosité.
Oui, vraiment.
Il y en a qui s'attendaient à aller voir là-bas,
oui,
d'ailleurs.
Oui, vraiment. Je me suis fait j'ai parlé avec beaucoup de gens durant le salon et plusieurs personnes sont venues me poser des questions. Y a-t-il un constructeur chinois qui sont là? J'étais comme, ben là, il y a Polestar, là, parce que Polestar, c'est financé par la Chine, puis c'est un peu comme Volvo. Là. Mm-hmm. Mais j'étais comme, à part eux deux, non, il n'y a pas personne encore.
Pensez voir BYD, j'imagine. Non,
oui, probablement. Ou t'sais, des gros joueurs comme ça qui devraient tranquillement commencer des tactiques de communication. Moi, je m'attends à voir des publicités peut-être, là, ou t'sais, de voir des publicités sur les réseaux sociaux ciblées avec des panneaux qu'on va vous montrer une voiture, mais on n'est vraiment pas rendu à l'étape d'un kiosque dans un salon automobile.
Mais sur place, tu as vu qu'il y avait déjà quand même beaucoup de curiosité par rapport à ça.
Oui, et on sait, ben, du coup, du moins, ce qui est annoncé clairement, c'est que les véhicules chinois qui vont arriver au Canada, ça va être des véhicules électriques. T'sais, c'est ça l'entente qui a été prise aussi. De toute manière, oui, la Chine construit des voitures à moteur thermique, mais c'est vraiment pas là qu'ils excellent. Là. Ils ont la capacité de production pour les voitures électriques. Donc, je pense que les gens ont compris que l'électrique allait prendre encore plus de place. Mmh. Et il y a eu une curiosité. C'est drôle parce qu'on était... le kiosque Boulevard était à côté de la filée pour faire les essais routiers. C'était plein chaque jour.
Ouais.
On a même parlé avec un bénévole durant la semaine qui, lui, nous a dit « Ouais, l'année passée, on a fait 1000 essais. C'était incroyable. On pense qu'on va battre ça cette année. » On est à 1500. C'est vraiment solide. Il y avait beaucoup de modèles aussi. Hein, 19 modèles à l'essai. Crime. Donc ça, je trouvais ça louable quand même parce que c'est un travail qui est fait en collaboration avec l'Association des véhicules électriques du Québec, qui est une association remplie de bénévoles. Comme moi, le monsieur qu'on a interviewé, c'est un monsieur qui, lui, croit à la transition énergétique.
Par passion.
Oui, exact. Puis lui, il amène son auto personnel parce que moi, c'est ça parce que je connais bien l'AVEC, là, mais ce qui me surprit de cette association-là, c'est que les gens sont tellement convaincus de leurs produits qu'ils vont, par exemple, faire des événements en Gaspésie, puis ils vont emmener leur voiture électrique là-bas pour le faire essayer à des gens. C'est vraiment des gens qui y croient à la transition. Et je pense que là, les curieux étaient « je suis un peu écœuré de payer du gaz, puis là, j'ai envie de me dire « je vais y aller ».
Je pense qu'on a les deux un petit peu le même discours là-dessus depuis qu'on a le plaisir de jaser ensemble. Puis tu regardes les deux arguments présentement, le prix du pétrole qui pourrait atteindre 2$ en fin de semaine à la pompe.
Quoi que Trump a changé d'idée, il a dit que la guerre achevait, là, le prix du baril recommence à descendre.
Et l'autre chose, ben, c'est que l'arrivée prochaine des véhicules chinois, c'est deux arguments de portefeuille. Avant de parler de transition énergétique, de responsabilité sociétale et individuelle et ainsi de suite, Le portefeuille, c'est toujours le nerf de la guerre.
Oui, on est là, tu sais. Puis ce que j'ai aimé du salon cette année, puis tu sais, je vous en avais déjà parlé un peu ici, mais il y a des produits qui arrivent, tu sais, la Chevrolet Bolt qui revient pour comme 18 mois, là, elle va se faire tasser ensuite par un autre modèle économique chez Chevrolet qui va prendre sa place. Mais on a la Kia EV4, c'est des voitures qui se vendent autour de 41 000. J'allais essayer le Subaru Uncharted. On va avoir une version autour de 39 000 $ pour un produit qui donne 400 km d'autonomie. Tu sais, on arrive tranquillement avec une gamme de produits qui deviennent de plus en plus abordable. Et clairement, si on accueille les véhicules chinois comme on est censé le faire, là, on parle de 49 000 véhicules pour commencer. Moi, j'y crois pas une seconde.
Toi, tu penses que ça va débouler plus que ça?
Ah, moi, je pense que dès qu'on ouvre la craque de la baie Windows, ça va rentrer à grandeur. Là. Oubliez ça, là, ça.
Comme les coccinelles en automne.
Ça va rentrer là, comme les bébés à patates. Écoute, ça, partout, moi, je pense qu'il va en avoir beaucoup plus que 49 000. Mais en tout cas, on verra. Mais chose certaine, c'est que le prix va descendre. Et là, j'ai senti du moins, parce que je me suis même posé beaucoup de questions par des gens qui étaient comme « Hey, que penses-tu du BZ chez Toyota? » Mm-hmm. Puis avant ça, on me disait « Que penses-tu du RAV4? » Mais je me suis parlé pas mal de chars électriques dans le salon. Et ça m'a surpris. On a eu des chamboulements en 2025. Beaucoup de gens avaient l'air d'avoir mis la hache là-dedans. Faut croire que dans les 66 000 visiteurs, il y en avait encore qui avaient l'intention de changer pour de l'électrique.
Sam, une belle journée qui est prévue mercredi où on sait que ça va tomber, mais on ne sait pas trop comment. Il y a de bonnes chances que ce soit du verglas mur à mur pour la région de Québec. Mmh. À part de dire au monde de rester chez eux s'ils peuvent, mettons que tu es obligé de prendre la route mercredi, on se fait-tu un petit cours 101 de comment dealer le verglas?
Oui, puis c'est drôle parce que c'est toujours le réflexe. Hein, si vous n'avez pas à prendre la route, prenez-la pas. Ouais, mais moi, je travaille.
C'est
ça.
Ouais,
j'ai pas le choix.
On peut pas tout rester à la maison.
Là. Donc, je comprends. Qu'est-ce que j'aime, par contre, d'une période de verglas comme ce qui s'en vient? C'est que là, on est habitué de conduire en hiver un peu plus. Au moins, c'est pas du verglas de début d'année.
C'est vrai que où on réapprend tous à conduire.
Oui, c'est ça. Donc là, on dirait que je me dis, bon, les gens vont avoir des meilleurs réflexes, mais tu sais, c'est le classique. Là. Je pense que je suis pas en train de réinventer rien à personne, mais c'est d'abaisser votre vitesse, de garder des bonnes distances avec les gens autour de vous. Essayez aussi d'allumer vos phares. Si jamais il pleut pendant que vous êtes en route, d'avoir les phares allumés, ça nous donne un coup de main. Sachez aussi que les phares automatiques des véhicules vont pas le faire automatiquement. Il y en a qui sont meilleurs qu'avant. Là. On dirait que les capteurs ont été bien calibré maintenant. Il y en a qui sont beaucoup plus sensibles, mais si c'est pas assez sombre, ça se peut que même si vous avez des phares automatiques, mm-hmm. que votre véhicule va pas les ouvrir. Donc, ça vaut la peine de vous-même le faire manuellement. Il y a toujours la question des essuie-glaces. Est-ce qu'on les lève? Est-ce qu'on les laisse abaisser?
Ça, parce que je le sais que mardi soir, parce que les précipitations vont commencer dans la nuit de mardi à mercredi, tôt mercredi matin aussi, je le sais qu'il y en a qui vont arriver chez eux puis que la première affaire qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont prendre leurs essuie-glaces, ils vont les lever en disant au moins, ils seront pas pognés dans la glace demain.
Ouais. Puis ça, il y a beaucoup d'écoles de pensée là-dedans. Il y a un élément logique, là, c'est qu'il y a...
Il y a ceux qui ont raison, puis ceux qui ont
non,
tort.
Non, c'est ça, exact. Ben, vois-tu, moi, j'ai changé mon discours un peu dans les dernières années. Parce que il y a un ressort dans le balai d'essuie-glace. Vous avez au bout de ça, on a l'essuie-glace en tant que tel, mais vous avez le bras d'essuie-glace qui est lui qui va faire bouger les essuie-glaces sur votre pare-brise. Mm. Dans le bras mécanique, il y a un ressort qui est là. Donc, le petit ressort, lui, qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il va venir mettre une pression pour être sûr que l'essuie-glace fasse bien son travail, enlève la cochonnerie devant vous. Si vous levez le bras, mais là, vous étirez également le ressort. Cette position-là, on dit que c'est une position de service, donc théoriquement pour changer les essuie-glaces, donc sur une courte période de temps. On dit qu'il ne faut pas le faire trop longtemps.
C'est dur dans l'aine de l'essuie-glace. Là. C'est,
exact.
C'est
ça
a une blessure à la laine.
Ouais.
Ça, c'est ça.
Tire dans le bas du dos.
Pour ceux qui ont la laine sensible, c'est ça, là, comme exact. Disait Pat Burns.
Ouais. C'est ça. Donc là, l'essuie-glace, il est moins content et ça fait en sorte que la pression du bras pourrait être moins forte sur le pare-brise et donc faire moins bien son travail. Ça, c'est un scénario que, à mes yeux, quelqu'un qui le fait à répétition, là. Tu sais, quelqu'un qui le fait automatiquement. Dès qu'il y a de la neige, dès qu'il y a quelque chose, on lève les essuie-glaces. Là, je pense que j'y crois qu'on peut fatiguer le ressort puis le rendre moins compétent. Mais si vous le faites pas souvent, puis là, vous vous dites, j'annonce vraiment une grosse quantité de verglas, c'est pas pour une nuit non plus qu'on va venir gâcher complètement le bras d'essuie-glaces. Moi, je suis dans l'école d'essayer de vérifier avec votre véhicule. Il y a maintenant beaucoup de véhicules qui offrent la position service horizontale sur le pare-brise directement. Donc, lorsqu'on clique, par exemple, dans un véhicule allemand, souvent c'est ça, on stationne le véhicule, puis on fait deux coups vers en bas avec les essuie-glaces. Le balai va se monter automatiquement vers le haut. Il va rester statique sur le pare-brise. Donc, il va pas se soulever. Okay. Il va rester à côté. Donc, le ressort sera pas étiré ici dans l'aine. Mais on va avoir un ressort bien placé. Et comme ça, c'est plus facile le lendemain matin de déglacer. Donc, ça existe dans plusieurs modèles, ces options-là. Puis c'est très pratique. C'est le temps d'ouvrir votre manuel du propriétaire et de regarder la section essuie-glace si vous êtes propriétaire d'un véhicule qui fait ça.
Tu parles de déglacer. C'était quoi la recette secrète?
Déglacer, moi, j'aime la bonne vieille technique de laisser aller travailler la chaufferette un petit peu avant de partir le matin. Là. On donne une chance à notre véhicule de se réchauffer. Vous avez un véhicule avec une application, vous pouvez démarrer à distance votre véhicule puis le laisser réchauffer. Ça peut valoir la peine.
J'essaye de changer ma bonne vieille technique qui est de péter toutes mes essuie-glaces en tentant de dégivrer net frais de sec.
Pas tes essuie-glaces, tes balais.
C'est ça, c'est que si tu leur donnes une chance à tes balais en faisant fondre légèrement la glace, ça va être plus facile, effectivement, de le gratter. Là, c'est pas obligé de partir le véhicule une heure et demie en avance non plus. Là. Des fois, j'ai vu des choses très drôles. D'ailleurs, on s'est fait poser une question à RPM Plus dernièrement. Il y a un concessionnaire qui a dit à une dame de laisser fonctionner son véhicule 2h30 de temps avant de partir de la maison pour être sûr qu'il soit chaud.
Mais il vendait-tu aussi de l'essence, le gars?
Non, c'était un char électrique. Puis là, j'étais comme... C'est ridicule. T'sais, c'est complètement ridicule. Fait que là, vous n'êtes pas obligé de faire virer votre voiture pendant comme des décennies. Un bon 10 minutes avant de partir, on le laisse tourner un peu. Comme ça, ça va vous aider à déglacer plus facilement.
Le carton dans le pare-brise?
Oui, ça peut fonctionner aussi. Puis il y a un truc vraiment efficace, c'est d'abaisser les pare-soleils.
C'est vrai, ça nous l'a déjà raconté.
On peut abaisser nos pare-soleils très près du pare-brise. Comme ça, lorsque la chaufferette, en bon français, va envoyer de l'air chaud sur le pare-brise, cet air-là va être mieux condensé autour et donc réchauffer plus rapidement le pare-brise également. Donc, juste de descendre vos pare-soleils au maximum ce soir en arrivant à la maison ou bien mardi, là, ça va vous donner une chance.
Hey, là, il y en a qui nous écrivent « Ah, moi, le mien a des wipers chauffants. Mon autre est capable de monter, comme tu mentionnais. »
Il existe des pare-brise chauffants maintenant.
Ben, voyons donc. Puis il y a quelqu'un qui nous avait envoyé aussi « Tu vaporises 50 eau, 50 alcool,
ça peut fonctionner. Sauf que si vous avez une bonne croûte, c'est pas si efficace que ça. C'est, bon. C'est un peu comme mettre du sel sur de la glace. Des fois, ça fait pas grand-chose.
Moi, j'ai un push-push 100 alcool. Quand je pète mon dégivreur, je m'en donne une shot ou deux dans la bouche. Ça me permet d'arrêter de sacrer. Là. On a toutes nos méthodes, Sam. On a toutes nos méthodes.
C'est déconseillé, mais oui.
Ouais, je ne suis pas un spécialiste.
Oui, c'est ça.
Je veux t'entendre là-dessus parce qu'il y avait un texte dans la presse de ce matin qui nous dit que la génération Z, en plus d'être difficile à suivre, ils veulent pas de char.
Oui, c'est une étude qui a été faite par Turo. Je sais pas si vous connaissez cette plateforme de location de véhicules. C'est un peu, je pourrais mettre ma voiture personnelle en location. C'est un peu le Airbnb de la voiture. Donc, on peut faire ça avec nos véhicules. Cette plateforme-là a fait une étude avec Angus Reid pour essayer d'aller voir un peu comment les consommateurs canadiens se sentent avec leur véhicule en 2026. Ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'il y a quand même 85% des Canadiens qui louent un véhicule, mais il y a seulement 45% d'entre eux qui... il y a 45% d'entre eux qui aimeraient voir de meilleures solutions de mobilité et transport en commun ou whatever. Donc, ce que ça dit, c'est que sur les 80%, il y en a plus de la moitié qui serait prêt demain matin à dire « Moi, j'ai plus de char, puis ça me dérangera pas, je veux prendre un autre transport. » Une des raisons évoquées pour ce dégoût-là envers les voitures, c'est le coût qui est très élevé. Ouais. Il y a 77% des répondants qui mentionnent qu'ils consacrent beaucoup trop d'argent à leur véhicule par rapport à ce qu'ils peuvent se permettre.
C'est encore l'argument du portefeuille. C'est la base de tout. Là.
L'argument du portefeuille.
Tu payes ce que tu peux te permettre.
Oui, puis on dit que par année, au Canada, la dépense moyenne pour posséder un véhicule, c'est 999 $ pour le Canada, 4067 $ pour le Québec. Donc, c'est quand même beaucoup de sous quand on y pense là, qu'on peut dépenser par
quel frais? Par mois?
Par année.
Par année, OK.
Oui, mais c'est la possession. Puis là-dessus, on calcule des gens qui ont des véhicules d'occasion, qui n'ont plus de paiement, c'est juste une question d'entretien et compagnie. Donc, quand même, c'est assez élevé. On a vu aussi les chiffres de hausse de prix, 60% d'augmentation de prix sur les véhicules selon Statistique Canada, entre 2019 et 2024. Donc ça, c'est la raison principale pourquoi les Z ont un dégoût face à l'automobile de plus en plus grand. À vrai dire, les moins de 30 ans, il y en a 36% d'entre eux qui disent qu'eux, ils n'auraient pas envie de posséder aucun véhicule dans leur vie.
C'est-tu un sondage où on prend l'ensemble de la population, où il y a moyen de voir... Par exemple, dans une région urbaine comme Québec et Montréal versus des régions où le transport passe plus souvent qu'autrement par l'automobile. Moi, quand même que j'aurais été un idéaliste là, au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Là, si je veux sortir de Saint-Fulgence pour aller à l'école, pour aller travailler, ça me prend un char parce que j'ai pas d'autres alternatives. T'sais.
100%. Puis je pense que ça devient, dans ce cas-là, par contre, un mal nécessaire qu'on appelle.
Comprends.
C'est ça, je pense, la grosse donnée qu'il faut voir ici, c'est qu'il y a des gens qui n'auront pas le choix d'avoir des autos, mais c'est pas une question d'envie. Là. Ils n'ont pas le cœur à avoir une voiture. C'est une question de « j'ai pas le choix ».
C'est-tu des chiffres qui inquiètent l'industrie automobile de voir ça, d'après toi?
J'espère.
OK.
Oh. J'espère.
Ils n'ont pas le choix de réagir en diminuant les coûts, j'imagine.
J'espère qu'il y a des fabricants qui commencent à se dire que ça n'a plus d'allure présentement. Là. Parce que, tu sais, maintenant, c'est pas compliqué. Si les jeunes en bas de 30 ans veulent plus... En tout cas, pour l'instant, il y a encore une majorité qui désire en posséder. C'est 36 % quand même qui disent qu'ils n'en veulent pas. Savez-vous, c'est quoi la moyenne de Canadiens plus élevé que 30 ans qui ne désirent pas avoir de véhicule?
Combien?
C'est 15 %. Mais... Donc, il y a plus du double des jeunes qui désirent pas avoir de véhicule. Ce que ça prouve, c'est que le produit qu'on leur vend n'est pas adéquat.
Ouais.
Le prix est trop élevé. Il n'y a pas d'attirance envers des véhicules. Tu sais, j'ai parlé de la Honda Prelude il y a plus si longtemps, une voiture hybride qu'on ramène sur le terrain, mais c'est une voiture qui était à l'époque marquante pour une génération. C'est une voiture qui a un nom, la Prelude, ça sonne, ça résonne. Et c'est une voiture qui était innovante, mais qui était aussi, à quelque part, abordable. On revient avec ce produit-là à 53 000 $ On fait une version traction hybride qui n'a pas de transmission manuelle, qui n'a pas moyen d'avoir du fun pour qu'un jeune qui désire juste avoir envie de se payer un petit trip puisse le faire. 53 000 $ c'est beaucoup de sous là, pour un char destiné à une clientèle plus jeune.
C'est drôle, hein? C'est pas du tout le même enjeu, mais j'ai l'impression que les deux industries font face au même problème. L'industrie de la télévision câblée puis l'industrie de l'automobile. Si tu veux intéresser les jeunes à ce que tu vends, ben faut que tu leur parles, faut que tu réussisses à aller les 100%. Chercher d'une façon ou d'une autre, parce que la technologie puis les réflexions économiques les ont rendus ailleurs.
100%. Puis tu sais, je pense que ça va prendre du temps avec les véhicules électriques plus abordables arrivent, mais j'ai l'impression que pour des jeunes, qui est une génération qui s'en vient sur le marché et puis qui se disent, ben moi, j'ai peut-être envie d'avoir un autre trip. J'ai peut-être envie, moi, de découvrir l'automobile à ma manière, un peu comme ça. Mais tu sais, c'est peut-être une voie aussi intéressante pour ça, mais là, faut pas qu'une voiture électrique coûte en moyenne 60 000 $ pour les intéresser, ça marche pas. Fait que tu sais, on revient encore au portefeuille, mais clairement, moi, je trouve ça inquiétant. Tu sais, moi qui travaille dans l'industrie automobile, qui parle, j'espère, le plus possible à des jeunes, à des gens qui de tous les âges, je me dis, ben là, c'est parce que si les gens n'achètent plus de char, là, parce que la passion devient plate, là.
Ça va être tranquille sur rpmweb.ca.
Ça,
hein?
ça sent pas le fun. Là.
Vous allez tester des autobus, j'imagine.
Ben, je sais pas. Des chars autonomes.
Aujourd'hui, on a essayé le 802.
Là, oui. Aujourd'hui, j'ai écouté un film dans mon auto en direction de la Malbaie.
Sam, merci beaucoup.
Merci à vous autres.
Sam Tremblay-Michaud, chroniqueur auto, rpmweb.ca. Courte pause, on revient. Vous êtes à Boulevard, c'est Gravel dans le retour.
Pour joindre l'équipe de Gravel,